Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Dans le cadre de mon émission Jazz Rétro, dont le premier numéro a été diffusé à la fin de l'automne 1996, au siècle dernier donc, je vous invite à découvrir une série intitulée « L'histoire du blues ». Grâce à Jean-Marie Pilet, qui a une discothèque très fournie sur le sujet et qui me tiendra compagnie pour nous présenter cette musique de blues. Le blues, le pur, le vrai, l'authentique, dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel. Comme son rival et néanmoins ami Muddy Waters, Howlin' Wolf a écrit quelques-unes des pages les plus excitantes du Chicago Blues. L'incomparable interprète de Little Red Rooster et de Spoonful a également été un exemple pour la génération rock des Rolling Stones et de Cream.
Standard du blues, Sitting on the Top of the World a été l'un des plus gros succès de Howlin' Wolf. Cette version, qui témoigne du charisme du chanteur, est extraite de l'album Living and Cooking at Alice Revisited qu'Universal a ressorti à l'occasion du 50e anniversaire de Chess Records.
À l'occasion de leur tournée américaine de 1965, les Rolling Stones participèrent à l'émission télévisée Shindig, à laquelle il fut également convié Howlin' Wolf. Soudain, Brian Jones coupa la parole de l'animateur et se tournant vers le bluesman, le convia à chanter, comme s'il s'agissait de la seule chose véritablement digne d'intérêt. Cette anecdote montre l'estime que portaient et que portent toujours les Rolling Stones à Howlin' Wolf, tout en mettant en exergue le côté décisif que ce dernier a joué dans l'émergence de la scène rock du début des 60s. En effet, le bluesman a été l'une des grandes références de tous les jeunes blancs qui, en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, sont entrés dans le blues comme d'autres entrent en religion, avec l'intime conviction d'y découvrir, avec des majuscules, la vérité suprême, en marge des Rolling Stones qui n'ont jamais manqué une occasion d'exprimer leur gratitude à son égard, les guitaristes comme Eric Clapton ou Jimmy Page, un chanteur comme Eric Burdon ou des groupes tels que Pearl Butterfly Blues Band ou Creedence Clearwater Revival de John Fogerty n'ont jamais tari d'éloges sur le magistral interprète de Little Red Rooster. Quant aux musiciens noirs de Junior Wells à Floyd Jones, ils ont également été fort nombreux à se réclamer de lui.
Conscient qu'il aurait pu lui aussi tourner mal, B.B. King s'est produit à maintes reprises dans les prisons américaines. En 1990, c'est à San Quentin qu'il a voulu prêcher la bonne parole du blues. Un moment magique entre ce roi de la guitare et plusieurs centaines de détenus.
L'unanimité ne procède d'aucun tour de magie, car si Howlin' Wolf personnifie avec Muddy Waters et Willie Dixon le Chicago Blues d'après-guerre, l'âge d'or de Chess et l'univers unique des cabarets du South Side, son nom est aussi associé à ceux de Memphis, et de West Memphis aux tavernes de Beale Street et à l'ambiance torride des premiers enregistrements de Sun Records. Et puis, Howling Wolf, c'est une voix extraordinaire, sortie d'une certaine manière des brumes du Mississippi. Une voix sombre, vibrante, immédiatement reconnaissable et capable de transcender les chansons les plus banales, comme l'a justement écrit Amy O'Neill dans Living Blues. Bref, le loup hurlant fait partie des grands créateurs de la musique afro-américaine au même titre que Muddy Waters, Johnny Hooker ou Chuck Berry.
Parfait symbole du blues rock contemporain, Jimmy Sakurai est un guitariste surdoué doublé d'un performer hors catégorie. Cette version live de You Upset My Baby donne un aperçu fidèle de ce dont est capable Sakurai sur la scène.
De Doc et Gertrude Burnett. Chester Arthur voit le jour dans une plantation située à égale distance de West Point et d'Aberdeen dans le Mississippi, vraisemblablement le 10 juin 1910, mais on n'est sûr de rien. Chez les Burnett, comme chez tous les membres de la communauté afro-américaine du Sud, portant encore les stigmates de l'esclavage, la seule distraction tolérée reste la musique, celle pratiquée bien sûr dans les églises. Chester Arthur, prénommé ainsi en hommage au dernier président américain du XIXe siècle, n'échappe pas à cette règle et c'est avec une réelle ferveur qu'il chante les spirituals au sein de la chorale de la Board Baptist Church d'Aberdeen. Bientôt, il découvre le blues, cette devil's music qui fait si peur. à Ruhrville, où il s'est établi avec ses parents et ses 5 frères et sœurs en 1923, Chester Arthur se lie avec Charlie Patton, déjà fort apprécié dans la région, et avec d'autres musiciens locaux qui, à l'image de Willie Brown, lui transmettent la passion du blues et l'envie de jouer de la guitare.
Tout le monde a trouvé son compte lorsque Gary Moore a abandonné le heavy metal pour le blues rock, car son jeu de guitare a encore gagné en intensité. Parmi les nombreuses collaborations de virtuoses irlandais, mentionnons celle-ci avec le bluesman texan Albert Collins. Cette version live de Two Tie Head est un must.
Last night, too tired to wake. I had a chill this morning, too tired to shake. Got a good poker hand, too tired to win. I hear my baby calling out to try to let it rain. I'm tired. Yeah. Yes, I'm tired. I'm tired. I'm too tired for anything. Tired to walk, tired to run. My baby calling, too tired, I'm tired. Yes, I'm tired. I'm tired. I'm too tired for anything. Tell them about it, Elvis. Prosperity, I'm tired of luck. Well, I should've not appeared, but I couldn't give up. Fuck, I'm tired. Yes, I'm tired. Well, I'm tired. I'm too tired for anything.
Ainsi, au début de la décennie suivante, il n'est pas rare de le voir animer des pique-niques et des fêtes champêtres ou bien encore jouer dans les nombreux juke joints du Delta en compagnie d'artistes qui ne partagent pas la même passion pour le blues. Mais si, bien sûr, il la partage, cette passion, et de plus en plus. Parmi eux se trouvent Robert Johnson, Tommy Johnson, Robert Lockwood et Rice Miller, futur Sonny Boy Williamson, lequel, tout en devenant son beau-frère, lui apprend aussi les secrets de l'harmonica. Lorsque Chester Burnett revint à la vie civile en 1948 à l'issue de 4 années fastidieuses passées dans une caserne de la côte ouest, c'est avec la ferme intention de se faire un nom dans le milieu d'une musique noire, alors en pleine effervescence. C'est ainsi qu'il se retrouve à West Memphis, qui comme Memphis de l'autre côté du fleuve compte un grand nombre de clubs et de honky-tonks.
En 1960, c'est un Muddy Waters au mieux de sa forme qui se produit au festival de Woodstock. Accompagné par des valeurs sûres telles que James Cotton à l'harmonica et Otis Spann au piano, résultat, I Got Mike Brandt on You, une composition de Willie Dixon, est une petite merveille d'authenticité blues.
But shake his head, baby, you know, and slowly walk away. I got my brand on you. I got my brand on you.
Tout à la fois chanteur, harmoniciste et guitariste, celui que l'on surnommera bientôt Howlin' Wolf, commence à se produire dans les quartiers chauds de West Memphis, puis de Memphis, accompagné d'excellents musiciens tels que les harmonicistes James Cotton et Junior Parker, et les guitaristes Pat Hare et Hubert Sumlin. L'ambiance qu'il réussit alors à créer grâce à la force phénoménale de sa voix lui vaut de décrocher sans tarder un contrat sur la station KWEM. Si ce travail n'a rien d'exaltant, loin de là, puisqu'il s'agit entre deux chansons de blues de vanter les mérites de tel ou tel produit, de la pub donc, à l'adresse des auditeurs noirs, il va cependant lui permettre d'unir son destin à celui de Sam Phillips, ce passionné de musique noire, par ailleurs fondateur des studios Sun, qui est alors à la recherche de jeunes talents. Guidé par Ike Turner, qui fait office de talent scout et de producteur chez Sun, Howlin' Wolf enregistre plusieurs titres à partir de 1951. Parmi ceux-ci, Morning at Midnight et How Many More Years, dont les droits sont rachetés par les frères Chess à Chicago. Enthousiasmé par cette voix puissante et ce blues électrique terriblement envoûtant, il faut bien le dire, Phil et Leonard Chess, qui ont déjà signé des artistes tels que Robert Nightwalk et surtout Muddy Waters, parviennent à convaincre le bluesman de venir à son tour à Chicago poursuivre sa carrière.
Au sommet de son art à la fin des années 60, Albert King en profite pour se produire sur la scène du Fillmore West de San Francisco. Il en résulte l'un des tout meilleurs albums live de l'histoire du blues. Blueswire, comme en témoigne cette flamboyante version de Blues at Sunrise.
set deeply in the well. While the sunrise and the east lover, it's set deeply in the west. I've been looking for my lover, and I haven't found it yet. I'm gonna call up China and see if my baby's over there.
Sa venue dans le Nord est pour Howlin' Wolf synonyme de consécration, épaulée par une pléiade d'excellents instrumentistes, au premier rang desquels l'incontournable Hubert Sumlin à la guitare, et secondé par un compositeur aussi exceptionnel que Willie Dixon. Il enregistre à partir de 1952 un nombre impressionnant de chefs-d'œuvre: Evil, Some Stack Lightning, Sitting on the Top of the World, Wang Dang Doodle, Backdoor Man, Spoonful ou Little Red Rooster sont autant de titres qui feront de lui l'égal d'un Muddy Waters et l'un des mentors de la génération rock.
Standard de la musique vaudeville reprise par Bessie Smith, puis par Billie Holiday, Hans Nobody Business reçoit ici un traitement de faveur de la part de Jimmy Witherspoon et de son orchestre. Un enregistrement public de 1959 qui reste l'un des hauts faits de ce chanteur, ayant toujours oscillé avec bonheur entre blues et jazz. Jean-Marie Pilet
et Marie-France Guimard-Roche vous disent au revoir et vous retrouveront dans une nouvelle émission, un nouveau numéro de l'histoire du blues, enregistré et réalisé pour vous par Pierre Écart dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.
One day, we've got ham and bacon. Next day, ain't nothing shaking. Ain't nobody's business if I do. Give me and my baby fuss and fight, and the next minute we are right. Ain't nobody's business if we.